France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Être enfin des associés autant que des épouses. Vaste programme que cette émission du 26 décembre 1949. 50 ans de génie féminin, c'était son titre, ça ne s'invente pas. Véritable ode aux femmes actives, aux femmes engagées, car trop longtemps, une éducation routinière a empêché les femmes de faire leurs preuves, nous explique ici Georges Delamarre, producteur de l'émission « À vous mesdames ».
Veuillez écouter « À vous, mesdames », un magazine du journal parlé de la radiodiffusion française.
Cette émission vous présente 50 années de génie féminin. Une évocation de Georges Delamarre, interprétée par...
Elisabeth Darcet, Jacques Lerat, Evelyne Raymond, Jacqueline Tournier...
Et l'auteur...
Quelques peines à imaginer que les générations antérieures à la nôtre aient pu manifester de l'étonnement, de la moquerie, voire de l'indignation devant les femmes qui, les premières, voulurent exercer des professions jusque-là monopolisées par les hommes.
Pourtant, il en a été ainsi. L'époque 1900, la fameuse belle époque, a blagué, pas toujours avec esprit, la première avocate sur le même plan que la première femme cochée. Couplet de chansons, facéties de journaux amusants, caricatures s'en donnèrent à cœur joie.
Dans les milieux plus graves, les gens sérieux hochaient la tête, prononçaient le mot décadence.
Ils disaient sur un ton sentencieux, une société assez affaiblie pour tolérer de semblables erreurs ne peut que glisser sur une pente funeste et mal finir à brève échéance.
La société de 1950, si elle nous paraît moins brillante et moins fringante que celle de 1900, est peut-être formée de matériaux plus solides. La coopération des femmes a fortifié les œuvres de prévoyance sociale, a orienté l'attention des pouvoirs publics et des masses vers le repos, l'hygiène, l'éducation, le bien-être. Nous lui sommes redevables d'une participation d'énergie et de ténacité qui constitue le plus haut éloge que l'on puisse exprimer.
50 années d'efforts, de persévérance, voilà ce qu'a coûté, femmes, la victoire de votre génie.
Un demi-siècle d'énergie
pour atteindre à cette apothéose.
Se pencher sur la souffrance.
Soutenir le droit des faibles.
Chercher les secrets de la nature.
Exalter l'art et la poésie.
Par l'esprit de sacrifice.
Par l'amour de la beauté.
Domaine, les femmes de chez nous s'efforcent de mesurer leur mérite à celui des hommes. Ce n'est pas à la légère, comme d'aucuns le disent. Ce n'est pas une idée fixe ni une mode. C'est un vœu. C'est une résolution fervente.
Les femmes ont conscience de pouvoir égaler les hommes.
Parfois de les surpasser.
Trop longtemps, jusqu'aux approches de l'année 1900, une éducation routinière a interdit aux femmes de faire leurs preuves. Quelques-unes se sont affranchies, mais n'ont été que des figures d'exception.
Il a fallu, environ l'année 1900, un mouvement irrésistible d'émancipation pour permettre à l'intelligence féminine de s'épanouir enfin.
Thank you.
Mais déjà, bien avant 1900, malgré les entraves des lois et des usages, des femmes avaient témoigné d'un magnifique esprit d'abnégation.
1855, guerre de Crimée. Florence Nightingale assiste à toutes les batailles. Sébastopol, Tractir, Malakoff. Secours et soigne les blessés, fonde des ambulances. Elle est la patronne de toutes les infirmières.
1870, une agitatrice révolutionnaire passionnée d'égalité et de justice universelle, une simple institutrice très pauvre et ne pensant qu'aux pauvres, affronte tous les périls pour l'avènement d'une république idéale. C'est Louise Michel.
1875, pour la première fois, une femme, Madame Bresse, obtient le diplôme de docteur en médecine. Elle est suivie en 1882 par Mademoiselle Blanche Edwards et par Mademoiselle Klumke.
1892, Mademoiselle Chauvin, reçue licenciée en droit avec éloge, prête serment devant la cour d'appel. C'est la première avocate française.
Mais il faut la révision des règlements. Il faut un décret ministériel obtenu au prix de difficultés interminables qui donne lieu à de véritables combats pour que les carrières intellectuelles soient non pas ouvertes, mais entrouvertes aux femmes.
À Londres, les suffragettes, dont Miss Pankhurst, que rien ne décourage, a su faire un véritable parti, parcourent les rues, tiennent des meetings.
Organise des manifestations, des cortèges, au cri de « Vote for women », votez pour les femmes.
Les suffragettes anglaises vont dans les usines, sur le carreau des mines, sans cesse traquées, dispersées par la police et toujours se regroupant.
Vote for women!
Elles se couchent en travers des voies de chemin de fer. Les locomotives s'arrêtent. Les trains sont bloqués. Si vous voulez passer, votez pour les femmes, crient les suffragettes.
Et Miss Pankhurst et ses suffragettes finissent par l'emporter. L'Angleterre accorde aux femmes le droit de vote.
En France, bien que nous n'en soyons pas là, les succès se dessinent. Il y a quelque chose de changé. Entre 1898 et 1910, trois nouvelles avocates sont inscrites au barreau, mesdames Maria Véronne, Balakowski et Divrande.
Cependant que Madame Pelletier, l'année 1900, est nommée médecin des bureaux de bienfaisance.
Madame Pascal, en 1905, médecin des asiles.
Madame Langaudry, en 1911, chef de clinique.
Madame Texier, en 1913, médecin des hôpitaux de Tours.
Madame Pouzin, médecin des hôpitaux de Nantes.
C'est en 1922 que l'on voit une femme devenir, par le choix unanime de ses collègues, médecin des hôpitaux de Paris, Madame Bertrand Fontaine.
L'élan est donné. En 1903, il n'y avait que 95 femmes médecins en France. Il y en avait 160 en 1921. On en compte 556 en 1928. Ce grade social est maintenant conquis. Une femme encore, Madame Schiff-Vertemer, est médecin ophtalmologiste des 15-20, spécialisée dans la chirurgie oculaire.
Complément indispensable de la médecine, la pharmacie. Mais quelle femme eût songé avant 1900 à prendre la responsabilité d'une officine de pharmacie? Ce fut pourtant le but qui se proposa d'atteindre, toujours en 1900, l'année féconde, Mademoiselle Harviset, qui exerça à Paris, dans les parages de la gare Montparnasse.
Concurremment avec Mademoiselle Napias, titulaire du diplôme d'études supérieures.
Les jeunes filles, les jeunes femmes sont, il faut le reconnaître, de très remarquables laborantines. Ce mot très moderne et très harmonieux convient à leur dextérité, à leur délicatesse de toucher, qui ont existé de tout temps. En chimie, en physique, elles tiennent un rang des plus honorables. On cite à la fin de l'année 1930, Madame Bruzeau-Clergeau pour la chimie, Mademoiselle Witt pour la physique.
En art vétérinaire, pour leur étonnante sollicitude envers nos compagnons familiers, elles se classent au tout premier rang. Mademoiselle Miquel sort victorieusement de l'école vétérinaire d'Alfort en 1937. Mademoiselle Salomon, lauréate en 1942, est actuellement chef au Laboratoire national des recherches.
Autre région, celle de la lutte des idées, voire de la polémique, dans le sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire pour l'aboutissement de justes revendications, le journalisme.
Le journalisme actif, l'émulation généreuse. Marguerite Durand, il y a 50 ans, créait le premier quotidien dirigé par des femmes, La Fronde.
Séverine y collaborait, la grande Séverine, dont le nom est trop oublié, qui employa sa vie entière à réclamer en faveur des déshérités plus de justice et de pitié.
Et plus tard, Yvonne Sarceret lancera les Annales politiques et littéraires, dont les conférences, suivies par un public composé presque entièrement de femmes, resteront célèbres.
Encore une gloire, et sans doute la plus haute, à l'actif de 1900. Madame Curie, aux côtés de Pierre Curie, parvient à isoler le mystérieux métal que renferme l'uranate appelé pêche-blinde, le radium, qui va révolutionner la science médicale.
Tout est révolution à cette époque étrange. Il n'est que de parcourir les magazines des années proches de 1900 pour comprendre que la silhouette des femmes tend à se modifier en même temps que leur intelligence.
Depuis les timides exhortations à la gymnastique dues à une courageuse novatrice, Mademoiselle Régnier, les jeunes filles, à partir de la prime adolescence, prennent l'habitude du trapèze, des anneaux, du tremplin, de la barre fixe.
Mais c'est l'entretien quotidien de la souplesse et de la vigueur qui un jour fait partie de l'éducation sous le nom de culture physique.
Tant et si bien que la mode s'en inspire. La robe à traîne, à falbala, à fanfreluche, le cruel corset rigide, tout ce qui paralysait encombre est banni peu à peu.
La ligne s'amincit, devient plus svelte, plus juvénile.
Les épaules s'effacent, la tête est mieux soudée au cou. Le visage cesse de se pencher vers la terre.
Les jeunes gens de 1895, sauf quelques exceptions, professaient le dédain du mouvement. Ils étaient lents, nonchalants. Ils affectaient l'indifférence et la satiété. La santé de la jeunesse française laissait fort à désirer en ce temps-là.
Les jeunes filles marchaient mal, se tenaient mal, couraient mal.
On la connaît, cette recommandation si souvent entendue de la mère à sa fille. Tiens-toi droite.
Recommandation qui, à présent, n'aurait plus aucune raison d'être. La pratique des exercices physiques a métamorphosé la femme. Elle marche d'un pas rapide et sûr.
Elle a acquis l'équilibre, la confiance en soi, par le corps qui régit l'esprit.
Selon la maxime célèbre, autrefois, une femme courait à courtes enjambées, le buste en avant, elle s'essoufflait, la figure écarlate.
Aujourd'hui, toute femme qui a fait de l'entraînement physique offre, quand elle court, une vision pour ainsi dire tonique. Rejetée en arrière, progressant par longues foulées élastiques, elle est semblable à Atalante.
Mais avant d'en arriver là, combien d'idées préconçues a-t-il fallu vaincre ?
Oui, les familles se scandalisaient devant ce qu'elles appelaient les allures garçonnières.
Et plus tard, les reproches acides contre les cheveux courts.
Une dame ne disait-elle pas, une jeune fille comme il faut ne doit pas prononcer le mot chic.
Autant en emporte le vent. L'évolution s'accomplit en dépit des préjugés.
Plus question de vieilles sentences. Une jeune fille ne doit pas sortir sans sa bonne. Une jeune fille ne doit pas lire le journal. Qui donc oserait parler ainsi à nos licenciés, à nos normaliennes, à toutes celles qui ont enrichi les domaines des sciences, des arts, des lettres.
Comme des échos se répondent dans l'espace, comme des reflets se jouent et des éclairs s'entrecroisent, de toutes parts des forces morales accourent et s'unissent. Quelle est cette voix divine ? Quel est le poète qui assemble dans son art subtil le lyrisme, la sensualité, l'innocence ?
Une grecque aux yeux allongés, soupire aux eaux douces d'Asie, c'est de cet aïeul que j'ai reçu les pleurs de poésie. Plus loin, dans un passé plus vieux, je vois sur un vaisseau qu'on frette une vierge qui dit adieu des deux mains aux rives de Crète.
Anna de Noailles, qui est tout ensemble l'Orient et l'Île-de-France.
Une autre nous a donné dans une prose pénétrante dont le vocabulaire et l'accent sont définitifs. La vagabonde, le blé en herbe, chérie, combien de chefs-d'œuvre !
Sur les étangs de ma province natale, les eaux baissant, le mois d'août précurseur tendait une pellicule d'étain. Quand une couleuvre longue et vigoureuse traversait l'étang, ses petites narines au ras de l'eau, accompagnées de son sillage triangulaire, j'hésitais, enfant, à me baigner. Je dois à mes étangs épaissis par l'été, remués par l'automne, d'avoir aimé un petit marais méditerranéen dont la bourrasque équinoxiale salait les eaux rousses vers la mi-septembre.
La grande Colette.
Encore, l'écrivain ne dépend-il que de son inspiration et de ses lecteurs, mais d'autres artistes, les peintres, les sculpteurs.
À l'école des beaux-arts, il faut bien le dire et non sans amertume, l'opposition fut extrêmement vive. L'accès de l'école fut longtemps interdit aux talents féminins. Un académisme rogue et hautain semblait proclamer que l'homme seul avait le droit de se dire artiste.
Mais il n'est point de murailles que l'on ne parvienne à renverser. Celles de l'école des beaux-arts s'effondreront comme on le vit à Jéricho. Admise enfin, Lucienne Heuvelmans, sculpteur, sort triomphalement de l'école l'année 1911.
En 1925, c'est le tour d'Odette Beauvert, artiste peintre.
En 1929, même succès pour Arlette Buzman, graveur en médaille.
Entrons à la faculté des lettres. Nous y consulterons des archives d'une émouvante élégance. Car elles ont été les femmes, elles sont et seront toujours tentées par l'ambition de savoir et l'honneur d'enseigner. Au hasard des pages, nous lirons les noms des premières docteurs et lettres. 1901. Mademoiselle Cipriani.
1914, Mademoiselle Duportat les Antales.
1917, en pleine guerre, Mademoiselle Guilleminot.
1924, Mademoiselle Labande-Jean-Roy.
Une jeune fille, Mademoiselle Bianchis, est nommée en 1910 maître de conférence, ce qu'on n'avait jamais vu. Elle occupe la plus haute distinction universitaire. L'étendue de ses connaissances, notamment dans la linguistique et la littérature, émerveille les professeurs, ses collègues.
École des chats, formation des archivistes paléographes. Mademoiselle Hacklock est, en 1906, la première lauréate et Mademoiselle Ducafy, en 1920, la seconde.
Tout se tient, tout s'enchaîne. Les progrès si rapides des valeurs intellectuelles des femmes déterminent des orientations ignorées jusque-là. Le cadre des métiers s'élargit. De nouvelles orientations sont offertes à ces jeunes esprits avides.
C'est ainsi que viennent s'ajouter aux écoles anciennes des centres mixtes d'agronomie, d'études sociales, de prévoyance, de démographie, d'urbanisme.
À l'Institut d'urbanisme, où les travaux portent sur l'esthétique, la salubrité, le tracé et la construction des villes, quatre promotions entre 1922 et 1929 mettent en relief quatre femmes.
Mademoiselle Trélat, jeune fille de 23 ans, avait obtenu en 1910 le premier diplôme d'architecte attribué à une femme.
Et un peu plus tard, Mademoiselle Surugue, élève de Deglane, s'élève au même rang pour avoir traité, avec un talent plein d'autorité, ce sujet, maternité dans une ville de province.
Génie des femmes, dont l'éclosion si longtemps retardée ne remonte guère au-delà de 50 ans. Qui dira ta vigueur et ta richesse?
Qui saura rendre juste hommage à l'invention sans cesse renouvelée de la couture, de la mode, de la fantaisie, trio de divinités féminines?
Certes, depuis qu'il y a des femmes et qui raffolent d'élégance, les bonnes faiseuses, dans les temps les plus reculés, surent faire de la robe un chef-d'œuvre et du chapeau une merveille. Mais avec l'époque 1900, ce fut l'apogée.
Perfection de Jeanne Lanvin.
L'originalité de Caroline Reboux, de Valentine, de Camille Roger.
Au royaume de la robe, nous avons des firmes illustres, Calosseur.
Au cours des années 1920-1925, Chanel, Madeleine Madeleine et Madeleine Vionnet.
Que seraient Paris et la France sans la couture et la mode? Ce sont, dans notre ciel, des étoiles de première grandeur.
un ciel plus vaste, si vaste que nous l'appelons l'infini, a sollicité en 1930 l'attention persévérante d'une jeune femme. Molière, par la bouche de Chrysale, l'eût peut-être confondu bien à tort avec sa Philaminte et raillé sa longue lunette à faire peur aux gens.
Il n'empêche que Mademoiselle Edmé Chandon, docteur et sciences mathématiques, fut nommée en 1930 adjointe à l'Observatoire de Paris.
Qu'il nous soit permis de hasarder une remarque. Oui, les femmes brillent dans toutes les professions, non seulement par les capacités de l'esprit, mais aussi par la force physique.
Suzanne Lenglen est imbattable sur les cours de tennis en France et à l'étranger.
De même que Virginie Herriot accumule les trophées de course en canot automobile. En revanche, les panonceaux du notariat ne séduisent que fort peu les femmes. Pourtant, la profession de notaire soutient, administre la fortune française. Or, en 1928 et 29, 5 femmes seulement se sont fait inscrire à l'école du notariat.
Sans doute parce que le droit notarial ne peut conduire qu'au poste de maître clerc. Les études de notaire ne sont guère transmissibles que dans le cadre de la famille.
Autant dire que l'horizon est fermé.
Et que les femmes veulent, et non sans raison, avoir librement des vues sur l'avenir.
De quoi cet avenir sera-t-il fait? Le génie des femmes doit-il être de poursuivre son ascension jusqu'à dominer les hommes?
On discerne dans cette parole une crainte mêlée de dépit. Pourquoi redouter une domination? Que signifie le mot de domination? Si, en effet, les femmes ont été, elles, dominées pendant des siècles, soyez sûr qu'aucune intention de revanche ne les anime aujourd'hui.
Bien au contraire. C'est parce qu'elles rendent un hommage tacite au savoir masculin qu'elles cherchent à se placer sur le même plan, qu'elles souhaitent se réaliser dans un climat de meilleure entente mutuelle pour une communion plus étroite.
Être enfin des associés autant que des épouses.
Ajouter à l'union des cœurs, l'union des esprits.
Car il n'est pas de dignité en amour si le moindre sentiment d'infériorité subsiste entre mari et femme. L'estime réciproque, c'est une garantie.
Cette émission vous a été présentée par Georges Delamarre sur une documentation d'après des témoignages d'époque avec Elisabeth Darcet, Evelyne Raymond, Jacqueline Tournier et Jacques Lerat.
Vous venez d'entendre « À vous, mesdames », un magazine du journal parlé de la radiodiffusion française.
Venez d'écouter 50 ans de génie féminin, un programme de l'émission À vous mesdames, première diffusion, 26 décembre 1949 sur la chaîne nationale.